France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, quel remède à notre malaise démocratique? On pose la question à deux jours du second tour de la présidentielle, sachant qu'au premier tour, 26% des électeurs se sont abstenus. Il y a eu également 800 000 bulletins blancs et nuls. Et pourtant, il y avait le choix avec 12 candidats. Alors à quoi est-ce dû? Est-ce la faute de notre système politique? De notre mode de scrutin? Pas si sûr quand on sait qu'aux élections locales et européennes, l'abstention est encore plus importante, alors que pour certains de ces scrutins, la proportionnelle réclamée par beaucoup est déjà de mise. Alors, est-ce la question même de la représentation qui pose question? Comment fabriquer de la légitimité démocratique? Que faudrait-il faire pour que les citoyens se sentent concernés par la vie politique? Faut-il une sorte de formation en amont, comme cela a été fait par exemple lors de la Convention citoyenne pour le climat? Faut-il inventer de nouvelles formes de démocratie participative, délibérative, collaborative? On en débat ce soir au téléphone sonne avec nos invités. Bonsoir Loïc Blondiaux.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à Paris 1, spécialiste des transformations de la démocratie contemporaine. Je précise que vous avez été un des organisateurs de la Convention citoyenne pour le climat et que vous avez co-dirigé avec Bernard Manin aux presses de Sciences Po le tournant délibératif de la démocratie. Armelle Lecause, bonsoir à vous aussi.
Bonsoir.
Co-fondateur du collectif Démocratie Ouverte qui mène beaucoup d'actions de terrain et vous avez chapeauté la fameuse primaire citoyenne dont on parlera aussi ce soir, j'imagine. Chloé Ridel, elle est à distance. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes cofondatrice de l'association Mieux Voter et directrice adjointe de l'Institut Rousseau. Vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités au 01 45 24 7000. Une précision importante, cela dit, la campagne officielle s'achève ce soir et nous sommes toujours tenus de parler autant de chacun des deux candidats si d'aventure vous en parlez.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Pour commencer, nous partons dans l'heure. Retrouvez Loïc. Bonsoir Loïc.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir appelé le standard de France Inter. Vous aviez une remarque ou une question, Loïc?
Oui, j'ai une remarque, c'est concernant là, en fait, l'inversion du calendrier des élections qui était mis en place par Jospin, avant l'élection du 2002. Moi, ça m'a marqué parce que 21 avril 2002, c'était mon premier vote. Donc voilà, ça m'a un petit peu marqué. Et le fait d'avoir les législatives après l'élection présidentielle fait ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire que on donne une majorité finalement à la personnalité qui est élue à la présidentielle. Et on se plaint après que le Parlement ne soit plus, que l'Assemblée nationale ne soit plus qu'une chambre d'enregistrement des décisions présidentielles. Si on revenait à mettre les législatives avant, on pourrait peut-être avoir un débat sur le fond, sur les idées. Et finalement, le président, qui est juste une personnalité, ne serait que la synthèse de ce débat d'idées. Alors qu'aujourd'hui, là j'écoute l'émission depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de l'homme et de la femme qui se présentent dimanche, là au second tour, mais on n'a pas tant parlé du fond des idées qu'ils pouvaient représenter. Voilà.
Merci beaucoup Loïc pour cette question. Loïc Blondiaux, c'est deux Loïc ce soir. Oui. Ne faisait que hocher la tête et a priori vous approuvez ce que nous dit notre ami de l'heure.
Absolument, votre auditeur a parfaitement raison. On a un exemple là avec la décision qu'a pris Lionel Jospin en 2002 d'inverser le calendrier, c'est-à-dire de faire passer le calendrier de la présidentielle avant les législatives, alors même que les deux mandats sont de 5 ans. Ça a été une toute petite décision qui a eu des conséquences mais incroyables et qui a maintenu finalement la Ve République dans sa logique hyper-présidentielle, ultra-présidentielle. Et il suffirait simplement d'un changement de calendrier, très vraisemblablement, pour que cette Ve République redevienne le régime parlementaire qu'elle devait être en 1958, avant l'élection au suffrage universel de 1962. Et si on ajoute à cela une autre mesure qui serait très facile à prendre, qui est la représentation proportionnelle, à ce moment-là, on se donnerait une chance de retrouver une sorte de normalité politique, alors que la Ve République, telle qu'elle fonctionne sous nos yeux, est une anomalie, une monstruosité politique, une normalité politique, c'est-à-dire un régime parlementaire fondé sur une majorité réelle, et non pas une majorité fictive, comme celle que produit le scrutin majoritaire, et il me semble que il faudrait pas grand-chose pour le faire, et d'un certain point de vue, je m'étonne que, alors qu'on parle depuis quand même pas mal d'années d'une crise de la représentation, aucun président n'ait eu le courage de mettre en place cette représentation proportionnelle, puisqu'il suffirait d'une loi, simplement. Il suffit d'avoir la majorité. On n'a même pas besoin de l'accord du Sénat pour le faire.
Et pour l'inversion du calendrier, qui prend la décision?
Le gouvernement. Alors là, c'est tout simple. Il n'y a absolument aucune difficulté pour le prévoir.
Ça peut se faire donc très facilement. Chloé Ridel, cofondatrice de l'association Mieux Voter, vous approuvez ce que vient de dire Loïc Blondiot et ce que disait Loïc, notre auditeur aussi ?
Absolument, je l'approuve. Ça fait partie des propositions que nous faisons avec l'Institut Rousseau. Et ça me fait penser à un sondage qui est sorti aujourd'hui pour RTL, un sondage de BVA, qui dit que 66% des Français aujourd'hui désirent une cohabitation. Donc 20 ans après l'instauration du quinquennat, ça a son lot d'ironie, si vous voulez. Et ça montre là une fatigue démocratique très claire de ce quinquennat qui, comme le disait Loïc Blondiot et votre auditeur, a totalement déformé et déstabilisé nos institutions, a marginalisé le Parlement et a étouffé la démocratie. Donc c'est vrai que face à cela, il y a deux mesures très simples qui s'imposent, qui ont été rappelé par Loïc Blondiot. La première, c'est la proportionnelle. En 2017, il faut savoir qu'avec 15% des voix en pourcent des inscrits, le parti du président de la République a eu 60% des sièges à l'Assemblée nationale. Donc c'est un vice de représentation très important que la proportionnelle pourrait corriger avec une simple loi. Et puis aussi, ce changement de calendrier, moi je pense qu'il faudrait organiser le premier tour de l'élection présidentielle et le premier tour de l'élection législative le même jour. Et là, effectivement, on aurait une assemblée beaucoup plus représentative. On aurait des triangulaires, sans doute, dans plein de circonscriptions. Et on aurait un Parlement dont la légitimité ne découlerait pas simplement du président élu, qui aurait une légitimité propre et qui pourrait davantage faire entendre sa voix dans le jeu des institutions.
Alors je vois que vous êtes déjà à peu près d'accord tous les deux. Armelle Lecause de Démocratie Ouverte, vous allez dans le même sens vous aussi
Oui, je vais dans le même sens. Ça serait une solution relativement simple à mettre en place. Loïc Blondiot vient de l'expliquer. C'est un avantage fort de pouvoir passer par une loi, par une simple décision du gouvernement, et ça pourrait changer beaucoup de choses. Après, nous, on en appelle à des transformations beaucoup plus profondes et dont on pourra reparler.
Mais peut-être on va parler, évidemment.
Avant ça, moi, je voudrais revenir sur le terme de fatigue démocratique. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus qu'une fatigue démocratique qu'on vit. C'est vraiment un cauchemar démocratique au sens où, quand on regarde aujourd'hui le premier parti de France à la présidentielle au premier tour, c'est l'abstention. 13 millions de personnes qui s'abstiennent, 26%, c'est 6 points de plus que le score que fait Emmanuel Macron. Si on rajoute à ça les 5 à 6 millions de non-inscrits qui sont d'une certaine manière invisibilisés, qui ne sont même pas comptés dans l'abstention parce qu'ils ne sont pas sur les listes électorales, ça rajoute encore un poids à cette abstention ou à cette non-participation au jeu électoral. Et quand on regarde la place des jeunes dans cette abstention, c'est 40% qui ne vont pas voter au premier tour de la présidentielle, c'est 9 sur pour les régionales. Et je pense, moi, à tous ces militants, à tous ces jeunes pour qui l'écologie est un sujet central, qui vont, pour qui c'est un cauchemar, en fait, d'aller voter dimanche, qui ne savent pas quoi faire et qui vont probablement aller voter pour certains d'entre eux, s'abstenir pour d'autres et qui se trouvent pris dans une forme de piège démocratique. Et quand on regarde les sondages, le Cevipof fait tous les ans une étude sur la défiance. On a 35% de citoyens qui n'ont pas confiance, qui ont 35% seulement qui ont confiance dans le gouvernement, 21% seulement dans les partis politiques. Ça va vous intéresser sur les médias, 29% seulement,
60%. Ah oui, on en prend toujours pour notre grade aussi.
Voilà. Et donc du coup, on est dans une
on
forme
a sans
de,
doute une responsabilité.
C'est plus qu'une fatigue, c'est vraiment
en tout cas, on y
un
réfléchit.
Cauchemar.
On y réfléchit. Et Pascal, qui est au standard, y réfléchit aussi. Bonsoir Pascal, vous êtes à Nice.
Oui, bonjour. Pour moi, la démotivation, elle vient aussi du fait qu'on retrouve toujours les mêmes têtes, aussi bien dans les élections régionales que dans les élections nationales, et qu'on a vraiment l'impression que ce sont des professionnels de la politique qui font carrière pour être élus tout le temps, et qui ne pensent qu'à leur réélection d'un mandat à l'autre. Donc je pense que si on interdisait aux gens de se représenter aux mêmes élections juste après, peut-être qu'on pourrait avoir un peu plus de mobilité, un peu plus de nouvelles têtes, et peut-être qu'on accélérerait un peu, enfin qu'on accroîtrait la représentativité.
Alors Pascal, on va soumettre votre remarque à nos invités. Vous dites des élus qui ne pensent qu'à leur réélection. Alors, moi, je voudrais être peut-être un peu plus indulgente. Il y en a aussi beaucoup qui se dévouent et qui passent beaucoup de temps à s'occuper des autres. Il y a des mandats qui ne sont pas évidents. Hein, le mandat de maire, c'est presque un sacerdoce. Voilà, donc je voulais juste dire ça, mais je vous soumets ce que Pascal vient de dire, Loïc Blondiot.
Oui, c'est un élément du problème. Effectivement. Aujourd'hui, le fait que la politique soit devenue une profession, c'est quelque chose à laquelle nous sommes habitués, mais ça n'est pas forcément une réalité qui est nécessaire en démocratie. En démocratie, selon l'étymologie du mot, chacun à notre tour, nous devrions participer au processus de décision. Aristote disait, la démocratie, c'est le fait d'être tour à tour gouvernant et gouverné. Or, là, pour le coup, le pouvoir de décision est réservé à des gens qui en font profession. Alors, cette tendance s'est accentuée au cours des dernières années, mais elle s'est accompagnée d'une autre tendance qui me paraît assez dramatique dans le contexte actuel, c'est le déclin des partis politiques. En fait, les partis politiques, à travers leurs militants, à travers leurs structures d'éducation populaire, entretenait une forme de lien entre les citoyens et le pouvoir. Et aujourd'hui, cette déconnexion du pouvoir par rapport à la société civile, et qui est effective d'un certain point de vue, est absolument renforcée par la déliquescence, parce qu'on peut parler véritablement de déliquescence des partis politiques, avec une question qui est posée, c'est est-ce que la démocratie représentative peut fonctionner, peut produire de la légitimité sans les partis politiques ?
Parce que les partis politiques avaient, vous le disiez, un rôle de formation aussi très important. Armel Lecause, vous qui êtes à Démocratie Ouverte, vous faites justement de la formation pour ceux qui veulent s'engager, qui veulent, parce que tout le monde ne sait pas faire. Si on veut justement renouveler le personnel politique, ça passe peut-être aussi par ça.
Oui, évidemment, la formation, elle est essentielle. Ce qui est absolument quand même génial, c'est que je parlais de cauchemar démocratique tout à l'heure. On a aussi un espoir fou, c'est-à-dire que Démocratie Ouverte, on regroupe une centaine d'autres organisations, d'autres associations, d'entreprises qui sont des innovateurs démocratiques, qui portent des solutions, dont certaines qui sont vraiment dédiées aux jeunes. Comment est-ce qu'on accompagne les jeunes vers l'engagement dans les quartiers populaires, dans la ruralité. On a des solutions qui permettent de prendre des décisions autrement, de co-décider. Vous parliez des collectivités locales. On a mener une expérimentation avec la mairie de Poitiers, par exemple, qui a complètement co-construit une assemblée de citoyens en ayant des citoyens tirés au sort qui travaillaient autour d'une même table avec des élus et avec des agents de la collectivité, donc chacun avec des casquettes différentes et avec des outils d'intelligence collective, avec des méthodes de gouvernance partagée, ont réussi à prendre une décision collectivement alors qu'ils venaient de très loin. Donc en fait, on a plein de solutions qui existent à une échelle nationale. On a lancé Démocratie Ouverte avec Loïc Blondiot, d'autres, la Convention citoyenne pour le climat, qui, même si elle s'est mal terminée, est un formidable exemple de ce qui peut fonctionner en termes de qualité de délibération d'une démocratie de construction, où en fait, au fur et à mesure, des citoyens qui viennent de partout en France, qui sont une France miniature, vont se forger une opinion petit à petit aboutir à des solutions qui sont jugées parfois beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus ambitieuses et beaucoup plus acceptables que celles de bien des experts.
C'est vrai que c'était très intéressant de voir des citoyens tirés au sort qui n'y connaissaient rien et qui se sont formés et qui ensuite sont devenus des experts du climat. On aura l'occasion d'y revenir. Mais Chloé Ridel, de l'association Mieux Voter, un petit mot suite à ce que nous disait Pascal. Effectivement, il y a des choses à inventer pour renouveler le personnel politique.
Oui, absolument. Et puis, puisque vous parlez de l'association Mieux Voter, il y a des choses à inventer pour mieux voter, pour réformer l'élection. Vous le disiez en introduction, le premier parti de France au premier tour, c'était les abstentionnistes, les électeurs ayant voté blanc ou nul. C'était 26% des inscrits. Au second tour de 2017, vous aviez eu aussi 25% d'abstention et surtout, plus important encore, 5 millions de bulletins blancs et nuls, donc 8% des inscrits, ce qui était un record pour la 5e République. Donc on voit bien qu'il y a une fatigue au sein de la fatigue démocratique, il y a une fatigue vis-à-vis de l'élection et il y a une vraie demande pour en changer les règles, puisque je crois que les électeurs en ont assez de voter utile. Quand on est consulté une fois tous les 5 ans et que au moment où on l'est, on doit voter utile, c'est-à-dire on doit distordre ses convictions, c'est extrêmement frustrant. Donc avec Mieux Voter, nous portons le débat sur de nouveaux modes de scrutin plus démocratiques, comme par exemple le jugement majoritaire, mais il y en a aussi d'autres, le vote par approbation, qui sont des modes de scrutin pour le jugement majoritaire où l'électeur, plutôt que de ne choisir qu'un seul candidat parmi X candidats, 12 ici en l'occurrence, il doit évaluer l'ensemble des candidats en attribuant à chacun une mention sur une échelle de valeurs qui va d'excellent à rejeté. Et puis le vote par approbation, c'est un mode de scrutin qui permettrait à l'électeur de soutenir autant de candidats qu'il le souhaite, c'est-à-dire de mettre fin au vote utile. Et je crois que c'est une vraie demande politique aujourd'hui dans notre pays que d'évoluer vers des modes de scrutin différents, nouveaux, plus démocratiques, qui permettent potentiellement de diminuer l'abstention en permettant à l'électeur de réellement s'exprimer sur l'offre politique. Ça ne se fera pas, ça ne se fera pas en un jour. C'est toujours très difficile, très compliqué, très long de modifier le mode de scrutin. Mais je crois qu'il faut porter maintenant le débat sur la question.
Alors, un tout petit mot, Loïc Blondieu, puis on repart au standard, parce que ça se bouscule ce soir. Figurez-vous que les auditeurs de France Inter ont plein de choses à nous dire sur ce sujet.
Alors, je voulais revenir simplement sur la professionnalisation politique. Alors, quelle est l'une des conséquences de cette professionnalisation? C'est que les citoyens, finalement, ne sont pas responsabilisés, en tout cas, ne sont pas invités, finalement, à participer au processus politique. Et je pense à une catégorie en particulier de citoyens qui ne supportent plus de ne pas être pris au sérieux et de devoir rester simplement spectateurs du débat politique. Ce sont les jeunes, c'est-à-dire que les chiffres qu'a donné Armelle Lecauze sur, et qui sont assez vertigineux, hein, sur le taux d'abstention des jeunes à cette élection dont on nous dit qu'elle continue à intéresser les citoyens, 40% de jeunes de 18-24 ans qui ne sont pas allés voter, ça signifie qu'il y a un changement de culture politique chez les jeunes et que pour les jeunes, ne pas pouvoir contribuer, ne pas pouvoir agir, en fait, ils sont porteurs d'une autre vision de la démocratie.
Ils agissent d'autres façons, il y a des manifestations
absolument.
Pour le climat, etc.
Voilà, mais c'est une démocratie du faire, alors que notre démocratie représentative condamne la quasi-totalité des citoyens à rester de simples spectateurs. Elle les place dans une position de passive vis-à-vis du pouvoir. Alors ça fonctionne encore avec les générations les plus anciennes, qui continuent à aller voter en masse, qui continuent à être assez loyales vis-à-vis de ce système de délégation, mais pour les jeunes, finalement, la situation n'est plus supportable, et il va falloir inventer des dispositifs qui permettent, d'un certain point de vue, d'associer les citoyens au processus de décision.
Paul est en Normandie. Bonsoir, Paul.
Bonsoir.
Merci d'avoir patienté. Vous êtes sur l'antenne de France Inter, Paul.
Voilà, bonsoir à tous. Je voudrais vous parler de démocratie directe. Donc, c'est une démocratie qu'on soit à partir de pétitions et qui sont votés au référendum par les citoyennes et les citoyens. Ce qui permet aux citoyennes et aux citoyens de s'impliquer dans la vie politique et de ne pas être laissés de côté une fois l'élection terminée.
Merci.
Voilà ce que j'avais à dire.
Eh ben merci Paul. Armelle Lecauze vous a écouté avec attention. Démocratie directe.
Mais la démocratie directe ne peut pas, on peut pas décider tous de tout le temps. C'est-à-dire que si demain on avait des référendums sur tous les sujets, il y aurait encore plus de fatigue démocratique probablement, et ça serait la porte ouverte potentiellement à ce que des intérêts privés, des lobbies réussissent à influencer encore plus le référendum. Donc oui, il faut aller vers beaucoup plus de référendums. Oui, il faut aller vers plus de démocratie directe, mais en faisant attention aussi à la structure médiatique qui permet le débat avant un référendum. Et donc en garantissant plus de diversité médiatique, plus de qualité de débat en amont dans la société, et en adjoignant au référendum en amont un processus de démocratie délibérative type une convention citoyenne tirée au sort, ce qui pourrait permettre d'avoir un mini-public, un petit nombre de gens qui, avant un référendum, débattent, se forgent une opinion, et puis le grand public à côté peut débattre en même temps, se forger une opinion aussi et éclairer le référendum. Nous, c'est ce qu'on appelle de nos voeux. On voit que là, il y a en fait, depuis tout à l'heure, on esquisse plein de solutions, plein d'idées, plein de propositions, et c'est des propositions qui, pour la plupart, sont déjà testées, sont expérimentées au local, etc. Et on pense que là, aujourd'hui, le temps est venu, la société est suffisamment mature pour qu'on déclenche une convention citoyenne sur la démocratie, suivie des référendums, donc des citoyens tirés au sort, comme pour la convention pour le climat, peut-être en mettant aussi un grand débat à côté pour que tous les citoyens dans la société puissent débattre.
Avec un vrai relais médiatique qui associe tout le monde, parce que faut pas que ça reste entre 150
voilà,
personnes.
Exactement, mais avec une grosse chambre d'écho pour que toute la société se pose ces questions de quel mécano démocratique, à quel endroit on démocratise la France dans la formation, dans les médias, dans l'école, dans l'entreprise, et comment est-ce qu'on réécrit notre règle du jeu. Ça s'appelle une convention citoyenne pour la démocratie, suivie d'un référendum, et si vous voulez soutenir cette idée, il y a une pétition sur Change.org pour pousser cette idée-là.
Voilà, Loïc Blondieu, je crois qu'il y a des pays qui ont fait une sorte de Big Bang comme ça, démocratique, qui ont réfléchi, qui ont tout remis en cause, ça s'est fait ?
Oui, ça s'est fait, en Islande, où il y a eu tout un ensemble de dispositifs délibératifs, participatifs, avec des citoyens qui a préparé un changement constitutionnel, avec un référendum, qui a adopté le projet de constitution élaboré de cette manière, par des citoyens, et en fait, ce sont les assemblées qui n'ont pas ratifié, hélas, ce projet de de constitution. Et en fait, ce que dit Armelle Lecauze renvoie à l'idée que si on attend que les acteurs qui ont le pouvoir aujourd'hui transforment les règles, je crois qu'on peut attendre vraiment longtemps. Ça ne pourra se faire que en associant les citoyens. C'est-à-dire que je crois que cette réécriture nécessaire de la Constitution, cette réécriture des règles du jeu, ce nouveau pacte démocratique qui est absolument indispensable, devra, quoi qu'il arrive, associer les citoyens. Et du côté du Chili, il me semble que... mais c'était à l'issue d'une crise. C'est-à-dire, faudra-t-il attendre une crise majeure, des mobilisations dures dans la rue pour que ça arrive? Je crois qu'avant que cette crise n'intervienne, il faut peut-être anticiper les choses, et cette idée me paraît être une idée tout à fait intéressante.
Alors, la Convention citoyenne pour le climat, on l'a obtenue grâce aux Gilets jaunes. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette pression et cette crise sociale des Gilets jaunes, on n'aurait pas réussi à obtenir la Convention citoyenne pour le climat, et d'ailleurs le fait que la crise ne se soit pas maintenue fait probablement que le gouvernement et le président de la République a à un moment récupéré la chose et n'a pas tenu sa promesse de reprendre sans filtre les propositions de la Convention citoyenne.
À propos de mobilisation dans la rue, je crois que Juliette, qui est à Lorient, souhaite nous en parler. Bonsoir Juliette.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Alors déjà, je voulais vous dire que j'ai beaucoup de mal avec cette expression de fatigue démocratique qui peut sous-entendre que les citoyens sont fatigués de la démocratie en elle-même. Alors que je pense que c'est plutôt que nous sommes fatigués d'être méprisés et maltraités effectivement par la façon dont le pouvoir est appliqué. En particulier ces 10 dernières années, voire même un peu plus, avec un gouvernement par ordonnance, par 49-3, enfin, on a tous les exemples qu'on connaît, un parlement, le travail du parlement dont on a l'impression qu'il n'est pas respecté ou qu'il ne sert à rien, les propositions de loi de l'opposition qui sont à peine examinées ou systématiquement refusées, des amendements, un affaiblissement des corps intermédiaires et effectivement une mobilisation sociale qui est réprimée vraiment durement.
Donc en fait, c'est aussi la pratique du pouvoir qui pose question, c'est pas que les institutions, c'est la façon dont ça se passe.
Oui, je pense. En tout cas, c'est un des gros problèmes, c'est que je pense qu'on a, alors cette démocratie représentative actuelle, à mon sens, elle n'est pas parfaite, mais il y a quand même beaucoup d'outils, beaucoup de contre-pouvoirs, mais qui sont affaiblis de plus en plus depuis pas mal d'années, et aussi effectivement une expression des citoyens et des corps intermédiaires dans l'occasion des mobilisations sociales qui sont vraiment réprimés très durement. Donc, au bout d'un moment, il y a une vraie désespérance, quoi. Il y a un vrai désespoir des citoyens qui se disent de toute façon ça ne sert à rien puisqu'on n'est pas écouté, quoi.
Merci Juliette, allez-y, on y va pour désespérance démocratique plutôt que fatigue, Loïc Blondiaux.
Oui, je crois que ça va au-delà de la fatigue, effectivement c'est même plus qu'un épuisement. Il est clair que il y a une tendance très nette des gouvernements depuis quelques années, souvent au prétexte de l'urgence. Hein, on l'a vu lorsqu'il y a des crises, cette démocratie en état d'urgence, elle laisse très peu de place à la délibération, à la discussion, à la consultation des citoyens. Et pire encore, il me semble que quand on met en place le gouvernement met en place des espaces de consultation, le fait qu'ils ne s'en servent pas, qu'ils n'en tirent aucune conséquence, on l'a vu avec le grand débat national et dans une moindre mesure avec la Convention citoyenne, contribue à désenchanter encore plus les citoyens vis-à-vis de cette pseudo-démocratie d'un certain point de vue dans lequel le pouvoir est concentré entre les mains d'un nombre de plus en plus restreint d'acteurs. Et votre auditrice a tout à fait raison de souligner que ça n'est pas seulement un problème de participation des citoyens ordinaires, c'est aussi un problème de déni de tous les acteurs intermédiaires, de tous les corps intermédiaires de la société civile organisée qui est court-circuitée de manière presque systématique et en fait ça c'est quelque chose qui réduit la démocratie à peau de chagrin, me semble-t-il, là où elle a raison aussi, on va dire qu'on est toujours d'accord, mais là où elle a raison aussi, c'est qu'il y a une disponibilité à l'inverse chez les citoyens. Une disponibilité pour participer. Les 150 citoyens de la Convention citoyenne ont montré qu'ils étaient là, qu'ils étaient prêts. Les Gilets jaunes ont fait de la question démocratique la question centrale de leur revendication. Ils continuent à s'intéresser à la politique. Ça n'est pas la politisation qui fait problème dans notre société. C'est le dégoût et l'écœurement vis-à-vis d'un système qui ne leur laisse absolument aucune place et qui finit par tourner seul sur lui-même.
Chloé Ridel, vous souhaitiez intervenir.
Oui, simplement pour dire que le phénomène de fatigue démocratique, pour moi, il existe très clairement et il est très grave, parce que la conséquence, c'est quoi? C'est que vous finissez par perdre les gens, et qu'une démocratie sans le peuple, ça n'est plus une démocratie. Vous avez des gens qui se détournent de l'élection et qui vont entrer dans des formes de contestation. Et puis vous en avez d'autres qui tout simplement se détournent de la démocratie. Et on voit des sondages depuis des années qui montre que de plus en plus de Français adhèrent à l'idée qu'il faudrait un chef en France pour remettre de l'ordre. Donc la réponse à cela, ça n'est pas de dévitaliser totalement la démocratie représentative pour ne passer qu'exclusivement à la démocratie directe. Démocratie représentative, délibérative, participative, directe, on a besoin de toutes ces démocraties-là, elles sont complémentaires, elles ne permettent pas de faire la même chose. Le référendum, c'est un outil très utile qu'il faudrait davantage employer, mais qui sert à trancher des problèmes dans le vif, quand vraiment on n'arrive pas à se mettre d'accord. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon l'a proposé pour trancher le débat sur le nucléaire. La démocratie délibérative, comme des conventions citoyennes, vont servir à discuter de problèmes très complexes, très, très difficiles, dont on n'a pas forcément idée de quelle serait la solution. Emmanuel Macron, par exemple, en avait proposé une sur la fin de vie. Donc on a besoin de toutes ces formes de démocratie différentes pour remédier à cette fatigue démocratique.
Daniel est dans les Alpes de Haute-Provence. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir et merci de prendre mon appel.
Mais je vous en prie, vous aviez une question, une remarque?
Oui, j'avais un témoignage, une question. Je suis un ancien élu, maire et président de communauté de communes. Et juste pour dire que ces mandats de proximité sont encore des mandats pour lesquels les citoyens sont très attachés. Et pouvoir agir localement, ça permet aussi d'avoir des actions qui sont concrètes et qui se voient tout de suite. Donc c'est beaucoup plus facile que, je dirais, des mandats au niveau national. Et je trouve que dans ces communes rurales, la démocratie locale est encore très forte. Par contre, je suis un petit peu étonné parce que vous abordez beaucoup de sujets sur l'essoufflement de notre système actuel. Et je vois à travers les propos que vous tenez que, en fait, vous vous approchez assez, enfin de façon même très proche, de la proposition de 6e République qui est abordée dans le programme de l'Union nationale. Et je voudrais savoir d'une part ce que vous en pensez. Est-ce que ça serait éventuellement une voie qui pourrait améliorer le système actuel?
Voilà, vous posez la question sur le programme de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon, mais il y avait d'autres propositions chez d'autres candidats hein, pour à l'occasion de cette présidentielle. C'est une réflexion qui fonctionne. Armelle Lecause, qu'est-ce qu'on peut répondre à Daniel? Peut-être d'abord sur la démocratie locale et sur l'engagement local. Commencer par là, c'est peut-être pas mal aussi pour ceux qui peuvent.
Vous avez raison, la démocratie locale est encore plutôt vivante, elle fonctionne bien à certains endroits, mais attention quand même, même la figure du maire, même les élus locaux ressentent de plus en plus de défiance. Certains sont attaqués, sont violentés, malmenés,
hein.
Et, etc. Et c'est un signal à prendre en compte. Mais oui, en fait, les collectivités locales aujourd'hui, c'est une forme de laboratoire absolument génial de plein d'expérimentations. Encore faut-il que les équipes le veuillent, c'est-à-dire que c'est pas partout. Nous, Démocratie Ouverte, on travaille avec les mairies d'Annecy, de Mulhouse, de Rennes. On développe un indice de qualité démocratique justement pour pouvoir objectiver cette qualité démocratique à l'échelle d'un territoire. Et en effet, je peux confirmer qu'il y a plein de bonnes volontés, de pratiques, et c'est parfois plus facile à cette échelle-là qu'à une échelle nationale. Mais on peut quand même ensuite tirer des enseignements et remonter à une échelle nationale.
Alors maintenant, on en vient à l'histoire de la 6e République. Est-ce qu'il faut forcément une nouvelle République pour changer les choses? Allez, Loïc Blondiaux.
Oui, je pense qu'il faut un changement de constitution, même si on peut imaginer une 5e République qui serait plus parlementaire, qui serait plus respectueuse des droits du Parlement. Il y a un vrai enjeu à revitaliser le Parlement, c'est-à-dire que le Parlement n'est plus un espace ni de représentation véritable, c'est une représentation qui est tronquée, ni un espace de délibération, puisqu'on voit que l'exécutif, finalement, fait à peu près ce qu'il veut, avec lorsqu'il a la majorité à l'Assemblée. Depuis plusieurs années, maintenant, puisque ça n'est pas la première présidentielle où Jean-Luc Mélenchon a évoqué ce thème de la 6e République.
Et c'est pas le premier à l'avoir évoqué. Hein. On avait Arnaud Montebourg très longtemps, il y en a eu d'autres. Hein.
Tout à fait, mais je crois qu'un jour ou l'autre, il faudra y venir et pour sortir finalement de l'impasse dans laquelle nous a mis cette 5e République hyper présidentialiste. Mais le vrai paradoxe, il y a deux difficultés. Hein. disons-le franchement. La première, elle est d'ordre technique. On l'a évoqué à propos des propositions de Marine Le Pen au cours de cette présidentielle. C'est que c'est pas du tout simple de changer cette constitution sans faire un coup d'État constitutionnel d'un certain point de vue. Et donc, il faut passer par l'article 89. Et cet article 89, il implique que le Sénat accepte de voter la Constitution, le projet de Constitution, avant de pouvoir le soumettre au référendum. Et ça, c'est un verrou qui est très très difficile à lever en l'état actuel des choses. Et puis, le deuxième paradoxe, c'est que, d'un certain point de vue, il faut croire sur parole ceux qui nous disent qu'ils vont remettre le pouvoir entre les mains du peuple. L'histoire nous a suffisamment vaccinés contre ce type de promesses.
Alors moi, je vais me faire l'avocate du Sénat. Le Sénat a prouvé son rôle ces dernières années. Et alors, je parle pas du fait de bloquer une réforme, mais je parle de, en matière démocratique, de contrôle du pouvoir exécutif, le Sénat a servi à quelque chose, Loïc Blondiaux.
C'est vrai. Le Sénat, par rapport à l'Assemblée nationale, est un lieu de délibération. C'est un lieu où l'évaluation des politiques gouvernementales peut se faire. Oui, c'est un rouage relativement utile, mais on peut essayer d'imaginer, et c'est ce que, alors puisqu'on en est à la foire aux propositions, avec quelques collègues, depuis quelques années, on essaie de promouvoir une troisième chambre qui serait une assemblée citoyenne tirée au sort, qui n'aurait pas le pouvoir de voter la loi, parce que ce sont les assemblées élues qui auront le dernier mot, mais qui auraient le pouvoir de contrebalancer par une participation citoyenne le travail des élus, parce que l'une des problématiques aujourd'hui de la démocratie représentative, au regard par exemple des questions environnementales, de la question climatique, c'est que la myopie de ces assemblées, qui est liée au fait qu'elles ne voient jamais plus loin que l'élection suivante, fait qu'elles ont beaucoup de mal à intégrer finalement le long terme dans le processus de décision. Et on est à peu près sûr, et je crois qu'on a raison de penser que si on introduisait les citoyens dans le processus, on aurait peut-être une chance plus grande d'affronter ces défis environnementaux.
On repart au standard, retrouver cette fois Samy. Bonsoir Samy, vous êtes à Créteil.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question.
Mais je vous en prie, si vous pouvez la faire pas trop longue, il est déjà 19h54.
Ah, pas trop longue. En fait, moi j'avais une question par rapport à comment faire vivre en fait la démocratie avec le peuple. C'est-à-dire que on demande souvent au peuple de faire des choix démocratiques sur des sujets qui sont parfois très très complexes. Et le peuple est pas très souvent éclairé. Si je prends juste un exemple, il y a eu un débat sur la retraite. Est-ce que je prends la retraite à 60 ans ou la retraite à 65 ans? Si je suis un citoyen moyen, j'aurais tendance à prendre la retraite à 60 ans, mais je me poserais pas forcément la question du financement. Donc comment est-ce qu'on fait pour éclairer le peuple sur ses choix?
Merci Samy pour cette question. Armel Lecoz de Démocratie Ouverte vous répond.
C'est tout l'avantage des conventions citoyennes, c'est que on a cette qualité de délibération d'une partie du peuple tirée au sort qui peut avoir le pour le contre des experts qui viennent apporter des avis contradictoires. Et comme on voit que on n'arrivera pas ce soir à apporter les réponses exactes à la manière dont le peuple peut venir contribuer à imaginer cette démocratie de demain, moi j'ai envie de donner un rendez-vous le 3 et 4 juin à Marseille. On organise avec d'autres associations un G500 citoyen pour justement se poser toutes ces questions. On aimerait y inviter le prochain président de la République, le prochain gouvernement, pour que ce qui est à l'air d'être annoncé, quelles que soient les mesures de l'un d'un côté ou de l'autre, c'est plutôt des mesures qui se font sans les citoyens et une transformation des institutions sans les citoyens. Et on ne peut pas transformer les institutions sans les citoyens. Comment changer la règle du jeu politique sans les premiers concernés?
Voilà, le message est passé. Chloé Ridel, vous souhaitiez intervenir, répondre à Samy?
Oui,
peut-être.
Tout à fait, par rapport à ce que disait votre éditeur sur le fait que les citoyens doivent faire l'effort de s'éclairer. Il y a une chose dont on n'a pas parlé dans cette émission, mais qui, selon moi, contribue beaucoup à la fatigue démocratique, ce sont les réseaux sociaux et la boucle qu'ils entretiennent avec les chaînes d'information en continu. On sait que ces réseaux sociaux, ils ont tendance à polariser l'électorat, à générer l'attention sur des contenus qui vont faire le buzz. Bon, et tout ça, ça génère de la fatigue chez les électeurs, et puis ça énerve, ça déforme le débat public. Et je crois qu'il est assez urgent qu'on s'attaque à ce problème pour avec des vraies autorités de régulation des réseaux sociaux. D'ailleurs, Barack Obama en parlait aujourd'hui aux États-Unis.
Mais effectivement, merci beaucoup Chloé Ridel. Il est déjà 19h56. Je voudrais vous soumettre d'abord la réflexion d'Hubert par rapport à ce que nous disait Samy. Hubert nous dit la démocratie doit s'apprendre à l'école pour savoir être citoyen à 18 ans. Donc je pense que là-dessus vous allez être tous d'accord. Effectivement, c'est déjà la première chose pour former les citoyens, des citoyens éclairés pour effectivement se prononcer sur un certain nombre de sujets. Et puis il y a Philippe dont on ne va pas pouvoir prendre l'appel malheureusement parce que c'est trop tard. Mais je vous soumets ce qu'il nous dit. Pourquoi on ne s'inspire pas du système suisse qui permet aux citoyens de répondre à des questions essentielles pour la société, Loïc Blondiaux?
Oui, je pense que sur dans une perspective d'atteindre la démocratie, les Suisses ont une culture et une pratique démocratique bien plus satisfaisante que la nôtre. Mais je voulais dire que derrière tout ça, le maître mot, c'est le mot de délibération. C'est-à-dire que en fait, il n'y a pas de démocratie sans délibération. Et la délibération, elle suppose qu'à un moment, il y a un processus d'information contradictoire de ceux qui y participent et donc des citoyens. Et or, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce processus d'éclairage du jugement politique des citoyens soit particulièrement bien assuré par les médias, par les réseaux sociaux. Et donc, du coup, l'enjeu de ces démarches de démocratie participative, c'est de créer la possibilité même de cette délibération démocratique.
Voilà, je vous soumets aussi, alors cette fois, c'est Walid qui est aussi en Suisse et qui nous dit c'est utilisé tellement souvent que ça provoque une fatigue démocratique. Alors bon, voilà, il n'y a sans doute pas de système parfait. En tout cas, je vois que la réflexion avance de tous côtés. Cette émission va bientôt toucher à sa fin. Si vous aviez chacun en 10 secondes une chose essentielle à nous dire ce soir, allez, Chloé Ridel, c'est vous qui commencez, la priorité des priorités.
Mais puisque dans deux jours, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle, je pense que la priorité, une des priorités, c'est dans 5 ans d'avoir un mode de scrutin présidentiel différent.
Merci,
qui permet aux électeurs de s'exprimer.
Merci Chloé Ridel. Armel Lecaux, allez, 10 secondes, pas plus.
Alors, si jamais il y avait une priorité pour moi, c'est en fait d'aller se renseigner et s'informer sur toutes ces solutions. On a fait un pacte démocratique avec 6 mesures que vous pouvez retrouver sur faire-gagner-la-démocratie.fr. Vous allez sur les sites de démocratie ouverte. Vous allez et en fait,
fini.
Ces solutions existent.
Et Loïc Blondiaux, c'est vous qui...
Oui, la vraie priorité, mais le problème, c'est que c'est un chantier de longue haleine. C'est effectivement ce qui a été dit par un de vos auditeurs. C'est l'éducation, qu'on ait une pédagogie à l'école qui nous prépare au métier de citoyen beaucoup plus. Qu'elle sélectionne et nous mette les uns contre les autres.
Merci beaucoup à tous. Juste après les infos de 20h, Patricia Martin, l'heure philo.
Claire,
bonsoir Patricia, on va réfléchir à quoi ce soir?
On va parler d'un grand philosophe Bergson, Henri Bergson, avec Emmanuel Kessler qui publie un livre passionnant sur le sujet.
Et ça fait partie effectivement du contexte général. Il faut réfléchir.